Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Alors nous sommes avec toi à l'occasion de la sortie du nouveau numéro de la revue Temps Critique, le numéro 23. Alors peux-tu nous parler un petit peu des thèmes qui sont présents dans ce numéro?
Oui, alors c'est un numéro assez composite parce que du fait de la parution vraiment épisodique, presque 1 an et demi, 2 ans des numéros. Et qu'on brasse pas mal d'autres parutions, c'est-à-dire qu'on a plusieurs supports entre les brochures d'intervention, les livres et la revue. Parfois, il faut composer, et donc on n'a pas une unité extrême du numéro, puisque dans un premier temps, on a été amené, on a jugé bon collectivement de rappeler deux brochures d'intervention qu'on avait eues et qui nous semblent fondamentales dans ce qu'on a écrit depuis 1 an. Donc un texte d'une part qui est une sorte de mise à jour de notre analyse du capital. Et qui vient actualiser en quelque sorte le texte qu'on avait publié au moment de mon livre sur la révolution du capital, un texte plus synthétique et réduit qui s'appelait Après la révolution du capital. Donc cela va vers une actualisation de ce texte et une continuité, pas véritablement de césure avec ce premier texte qui a maintenant juste 10 ans. Donc ça constitue une sorte de synthèse d'un certain corpus de temps critique en ce qui concerne l'analyse du capital, le capital à la fois comme rapport social, mais aussi comme puissance, et aussi comme puissance politique, quand on pense par exemple à ce qu'on a écrit sur la question des fractions du capital, puisque maintenant, les lecteurs qui nous connaissent ou qui nous entendent savent que nous ne sommes pas pour la théorie du capital automate. Nous pensons bien qu'il y a des fractions du capital, ce qu'on retrouvera dans nos articles sur les États-Unis. Ça, c'est un premier texte. Et un deuxième texte, donc, où on reprenait la question des migrations, un texte sur migrants et immigration qu'on avait produit au moment de. C'était une intervention contre la loi immigration, hein. Une intervention qui n'est pas particulièrement protestataire ou humaniste, mais qui se voulait politique et théorique, dans la mesure où il nous semblait plus possible de parler en termes d'immigration dans le cas des migrations internationales d'aujourd'hui, qui ne se situe plus principalement ni dans le cadre de l'immigration politique, type celle qu'on a pu connaître, la plus importante pendant la guerre d'Espagne, après la guerre d'Espagne, en direction de la France, ni dans le cadre d'une stricte immigration de travail. Comme à l'époque où on parlait non pas en termes de migrants ou d'immigration, mais en termes de travailleurs immigrés, où il était évident que les migrants étaient des travailleurs immigrés. Aujourd'hui, c'est plus un axe qui nous paraît fondamental, dans la mesure où même si il y a une baisse démographique dans les pays les plus puissants et qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre, cette main-d'œuvre n'est pas essentiellement une main-d'œuvre déqualifiée. Nous avons déjà longuement critiqué la notion d'armée industrielle de réserve. Donc c'est bien ça qui aussi pose problème, c'est que la migration aujourd'hui elle est liée à autre chose qu'est la libre circulation des personnes. Qui pose d'autres problèmes que le simple problème du travail. Et donc j'enchaîne justement donc à partir de là sur les textes qui ont il y a deux textes qui ont été produits sur la question du travail. A priori, on peut trouver que c'est accordé encore pas mal d'importance à la question du travail, alors qu'on dit par ailleurs que le travail n'est plus central dans la valorisation, que ce qui devient central, c'est plus les conditions de vie, avec, on l'a vu, le mouvement des Gilets jaunes, et les conditions de travail sont incluses dans les conditions de vie. Et c'est plutôt ces conditions de vie et la révolte contre les conditions de vie actuelles Key Motor. Alors que dans le processus, on pourrait dire traditionnel, du mouvement ouvrier et mouvement révolutionnaire, souvent c'était les conditions de vie qui étaient secondarisées par rapport aux conditions de travail et aux luttes sur les lieux de travail. Le sens un petit peu de cette hiérarchisation des luttes, ça s'est inversé. Donc des textes envisagent ce point de vue-là. Un peu du point de vue du fond, mais aussi par rapport à tout ce qu'on a pu entendre après le Covid dans les médias et au niveau des politiques aussi sur ce qu'aurait été la désertion du travail, le fait que les cadres, un certain nombre de cadres, que les jeunes en général auraient profité de cette césure procurée par cette rupture même provoquée par la crise sanitaire avait entraîné comme conséquence une sorte de prise de conscience ou d'éclairage que de nombreux types de travail soit apparaissaient comme des bullshit, soit que le travail, mais ça va de pair, le travail aurait perdu de son sens. Et que donc les gens se questionneraient sur cette perte de sens. Donc, dans ces articles, on relativise quand même beaucoup cette tendance qui, d'ailleurs, bizarrement ou paradoxalement, a été mise à jour par les amis du capitalisme, en quelque sorte, qui étaient tentés de nous montrer qu'il y avait aujourd'hui une autre critique du travail, et ils semblaient tout contents d'avoir cette critique du travail, comme s'ils étaient contre le travail, comme si finalement tout le monde était contre le travail. Pour nous, il semble qu'on soit assez loin de la critique du travail qui avait eu lieu dans les années 60-70 et qui avait été portée assez loin, effectivement, par les jeunes et aussi par les futurs cadres qui refusaient d'être les cadres de la bourgeoisie, comme on disait à l'époque, quand on était étudiant, et non pas par des cadres bien en place qui tout à coup sont dégoûtés parce qu'ils en ont marre de l'informatique ou marre de faire des réunions imbéciles aux quatre coins du monde ou alors d'être bloqués sur leur ordinateur face à des réunions visio, des choses comme ça. On ne peut pas dire que ça soit une critique du travail bon, qui soit radicale en quelque sorte. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle éclaire peut-être plus de façon plus objective par rapport à notre époque où on pensait vraiment que la critique du travail allait être radicale et qu'elle continuerait jusqu'à la fin jusqu'à la Révolution. La critique actuelle du travail, si critique qu'il y a, c'est plus une critique qui tend à montrer que les gens ne se satisfont plus de cette perte de sens, de la déqualification, de la fin des métiers, de la professionnalisation, et que peut-être ils aspirent effectivement à d'autres activités, à des activités alternatives, à d'autres formes, si ce n'est pas l'abolition du salariat, tout au moins une critique du salariat qui n'est plus véritablement une critique du travail, mais une critique du salariat. Parce que beaucoup se posent la question justement de savoir, quand on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et c'est effectivement ça a pu apparaître pendant le Covid, qu'est-ce qu'on fait? Donc ces textes sur le travail peuvent être rapportés à notre analyse générale sur la perte de centralité. Cette perte de centralité se retrouve dans l'ouverture plus générale à la question de la nature, comme on le voit dans un des petits textes de ce numéro, qui semble un texte synthétique, qui souligne la nécessité de maintenir une dialectique de la nature comme puissance, c'est-à-dire une nature qui ne soit pas simplement l'objet à exploiter, comme on l'a toujours vu dans les théories capitalistes, enfin les théories libérales, mais aussi dans la théorie marxiste, ni non plus une nature à protéger comme les écologistes l'envisagent de leur côté dans les différentes formes de critique de l'extractivisme ou de la pollution.
Bon, alors tu as essayé de relier des éléments assez éparses pour assurer une continuité tout au long des articles. Mais on voit apparaître un élément autour de la fin du temps historique et de la fuite effrénée du monde. Peux-tu nous parler précisément de cet aspect?
Oui, alors ça, c'est plus un bloc qui aurait une certaine homogénéité si on tient compte que les deux articles sur les États-Unis sont des sortes d'exemples de cette question. Donc il y a là une certaine unité, avec d'abord des extraits de mon livre sur la disparition du temps historique, où je développe l'idée que le temps du capital, ou plutôt ce qu'on peut appeler le temps capitalisé, est très différent du temps historique de l'époque bourgeoise et évidemment de ce qui a pu être considéré comme le temps révolutionnaire. La disparition du temps historique ne signifie pas pourtant la fin de l'histoire. Le retour des souverainismes et l'ethnicisation de l'histoire, pardon, l'ethnicisation et la mise en avant d'aspects religieux dans les conflits actuels ne semble pas assimilable au mouvement nationaliste et à la force du mouvement nationaliste au XIXe et XXe siècle. Ils ne sont plus un vecteur majeur du développement. Les nationalismes arabes ont été défaits et les appels au djihad, l'expérience de l'OI, enfin d'État islamique, la résistance palestinienne, etc., sont plus des références à un destin manqué qu'à une histoire à venir. Ça, c'est un, bon, disons, un premier point. Le deuxième point qu'on développe à partir d'une référence à Mario Tronti, c'est d'essayer de comprendre le mouvement de totalisation du capital, pardon, à travers celui de la totalisation de la démocratie, et non pas simplement, ou plutôt pas du tout, de ce que vous pouvez appeler un totalitarisme démocratique, comme le font ceux qui parlent en termes de l'état d'exception, par exemple, autour des références à Carl Schmitt, ou de façon plus actuelle, de démocratie illibérale, dans le cas de Trump, d'Orban, de Bolsonaro, etc. Donc le terme de catégorie qui est employé par Tronti et repris ici pour être un petit peu mis en perspective par Jacques Guigou, le catégorie fonctionne, c'est un terme très ancien, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement historiquement une puissance de retenue par rapport à une accélération de l'histoire. C'est quelque chose qui s'est développé historiquement, et Schmitt le développait, dans l'analyse de l'évolution historique des empires, où il montre que ce phénomène de retenue par rapport, par exemple, au mouvement de nationalitaire, cette retenue qui a duré jusqu'à l'Empire austro-hongrois, par exemple, elle a été en quelque sorte un élément de frein par rapport au capitalisme qui s'est développé dans le cadre des mouvements nationaux en Angleterre, en France, dès le dès la Révolution anglaise et même Louis XIV en France, puis avec la Révolution française, etc., qui sont l'exact contraire dans la mesure où ces événements sont des accélérations de l'histoire. Alors, l'intérêt de cette notion, évidemment, elle est historique, mais aujourd'hui, où on dit qu'il y a une sorte de disparition du temps historique, c'est que le catéchon sert à prendre acte, en fait, de la défaite de ce qui a été une sorte d'accélérationnisme révolutionnaire, même si on n'employait pas le mot. C'est-à-dire aussi bien pour Tronti, qui nous dit que finalement le mouvement ouvrier et les prolétaires, leur lutte des années 60-70, ont été défaits par la victoire de la démocratie, et que donc il ne peut plus y avoir d'accélération révolutionnaire finalement, mais qu'une résistance, disons, une retenue ou un ralentissement. Ce thème a été développé par plusieurs auteurs d'extrême gauche et par exemple par Giorgio Cesarano et Jenny Colu dans Apocalypse et Révolution, qui prennent acte du fait que l'espèce humaine tout entière est en voie de capitalisation, qu'on est passé à un stade où, à part, il y a quasiment eu une révolution biologique et anthropologique qui s'est produite et qui débouche sur une absence de perspective et finalement une recherche de soit de quitter ce monde. Cesarano va se suicider et Colu va embrasser la religion catholique, finalement. Il y a peut-être une sorte de suicide, mais je ne sais pas. Mais et Jacques Camat et la révolution et la revue Invariance vont aborder aussi ces questions en parlant de la nécessité de sortir en quelque sorte de l'histoire, puisque ce temps historique, le temps de la dialectique, etc., il ne mène qu'à la confirmation en quelque sorte du système en place, c'est-à-dire toute une analyse qui nous dit que finalement la révolution n'est pas hors de ce temps, elle fait partie du temps du capital, puisque finalement tous les éléments révolutionnaires ont été intégrés. Donc voilà, si on veut, et qu'il faut donc proposer non pas une révolution, nous dit Camat, mais une inversion en quelque sorte de ce qui s'est passé et de retrouver une certaine naturalité qui aurait été réprimée. Dans cette optique-là, tous les classements en termes de progressistes, c'est-à-dire tous les progressistes sont des accélérationnistes en quelque sorte, en termes de progressistes ou en termes de néoconservateurs, qui sont donc des ralentisseurs, qui sont des catéchonistes, toutes ces distinctions tombent, puisque dans les accélérationnistes, on trouve aussi bien l'homme nouveau des transhumanistes, des libertariens et l'extrême gauche habituelle, et chez les néoconservateurs, les défenseurs des valeurs, mais aussi ceux qui essayent de prendre acte des limites de la révolution telle qu'elle avait été posée à l'époque de la théorie du prolétariat. Alors, les articles sur les États-Unis ne sont pas complètement indépendants de cette question-là, parce que quand on parle de la difficile synthèse trumpienne, c'est effectivement une synthèse risqué entre accélération et ralentissement. On voit très bien que dans les fractions du capital qui soutiennent Trump, il y a les fractions accélérationnistes et les fractions de défense des valeurs néoconservatrices et qui veulent freiner les transformations sociétales. Bon, donc notre discours n'est pas complètement abstrait, idéaliste, etc. Il y a bien un lien. Par exemple, quand on dit que la fraction technologique du capital a le vent en poupe et que elle n'est pas d'accord. Bien sûr, il y a eu un accord électoral d'une certaine façon, ou préélectoral, ou de financement. Mais quand on voit l'opposition entre ceux qui veulent encore plus de liberté pour les plateformes, pour l'intelligence artificielle, pour les expériences transhumanistes, on voit bien que ces gens-là qui sont pour cette politique-là sont opposés aux individus qui veulent taxer les produits étrangers, veulent faire des États-Unis une forteresse imprenable. Et qui développent des visions apocalyptiques qui sont pas sans rappeler justement les théories chrétiennes et leur rapport avec cette notion de catéchonde qui est liée justement à l'idée que si on ne fait pas quelque chose maintenant, on va dans l'extrême gauche, on disait socialisme au bain-marie. Là, du côté des néoconservateurs, on a, je sais pas de phrases en tête, mais quand on lit les journaux, on a des formules de certains partisans du camp de Trump qui parlent en termes d'antéchrist, en termes de si jamais on ne rétablit pas une sorte de nouvelle société. Donc voilà. Quand on parle on aborde aussi un autre point qui est pas mal discuté aujourd'hui et qui fait problème et qui revient à une question de la puissance, c'est la discussion autour du fait de la puissance américaine et son déclin. Une puissance américaine que beaucoup voient décroître dans l'élection de Trump et surtout sa deuxième élection, aussi dans la montée de la Chine, mais du fait que sa deuxième élection serait un signe de faiblesse des États-Unis. Ça c'est plutôt une parole assez dominante quand on lit un peu comment interpréter et que de toute façon le Trumpisme ça serait un affaiblissement encore des États-Unis, etc. Aussi bien l'article de Larry que le mien s'opposent plutôt à cette vision sans être devin. On pense plutôt que la puissance américaine continue à s'affirmer, ce qui n'empêche pas que la Chine puisse avoir, ou même l'Europe d'une certaine façon, puisse avoir aussi du répondant et puisse jouer un rôle. Mais en tout cas, ils ne sont pas d'accord avec cette notion d'affaiblissement de la puissance américaine. Si on en reste au sens de puissance, au sens large, on ne parle pas de puissance impérialiste ou autre, mais puissance en général, pas simplement militaire, mais puissance d'invention, d'innovation, dynamisme, etc. D'où le titre sur lequel j'ai parfois été interrogé dans des discussions précédentes à Paris, par exemple, sur pourquoi, dans une brochure préalable, j'avais parlé tout de suite après l'élection américaine de puissance et déclin. Et donc, j'ai eu des personnes qui, enfin, des personnes pris au hasard dans la rue, évidemment, qui m'ont posé la question de savoir, mais alors, ces puissances ou déclin, il faudrait choisir. Et donc, si on a un peu compris ce qui est dit dans les autres articles qui précèdent, justement, et aussi sur la question de l'article sur le Viaticon, tout, normalement, c'est bien, je le réaffirme, puissance et déclin. Et la synthèse, elle est dans cette articulation entre les deux, étant entendu que si Trump réalise en quelque sorte ce catégon, c'est qu'il réussira un équilibre, à trouver un équilibre. Et que finalement, la survie des systèmes est toujours liée à un équilibre. Mais la différence avec le capitalisme, c'est que ce n'est pas un système, ce n'est pas un régime politique particulier, et que sa notion d'équilibre, elle est toujours, une perspective. Mais que la dynamique est toujours essentielle, c'est-à-dire ce sont toujours des équilibres suite à des dynamiques. Donc ça ne peut pas être des équilibres de long terme, mais des mouvements sinusoïdaux, des crises.
Oui, tu veux dire par là qu'il y a peut-être des phases, oui. La crise en étant d'une certaine façon, qui peut relancer.
Des tendances.
Voilà. Et donc, c'est une situation par définition instable, parce que la stabilisation est toujours une stabilisation problématique. C'est ce qui différencie le capitalisme de toutes les régimes ou modes de production qui ont pu le précéder. C'est-à-dire qu'il réactive toujours ce qu'il fait, ce qu'il contredit ou ce qu'il essaye de dépasser, etc. D'où aussi notre notion d'englobement par rapport aux contradictions. Le fait que il n'y a jamais de véritable dépassement, et donc il n'y a pas de dépassement des contradictions, mais il n'y a pas non plus, jusqu'à maintenant, de contradictions finales et d'écroulement.
Bien, merci Jacques pour cette présentation du nouveau numéro qui éclaire et précise les points contenus dans les différents articles.